Vous écoutez France Culture.
Bon, Benoît, c'est un vrai magasin chez vous.
Non.
Si, si, on y trouve de tout.
Oui, non, il y a pas mal de choses, mais je suppose que chez vous, ça doit être pareil, Eric.
Déjà, il y a un peu de chez moi, là. Il y a mes disques de Hill Street Blues. Il y a mon Star Trek. Bah oui, j'ai l'œil, hein, quand même. Mm. D'ailleurs, bon, ça s'appelle Reviens, d'accord ?
Oui, oui, non, vous inquiétez pas.
Aristide Development.
Oui.
Un must, comédie très actuelle.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez de beau ? Bah si, bah, vos séries préférées, Six Feet Under, Gilmore's Girl, oui. Doctor House, Scrubs. Je continue je sens que vous allez me prêter des choses.
Mais j'aimerais vous montrer autre chose, Eric.
Ouais.
Je peux ? C'est un petit coin, c'est ma petite caverne d'Alibaba. C'est un petit meuble mural.
Il y a des gâteaux, non ?
Non.
Oh là là !
Et alors là, il y a toutes mes VHS.
Oh là là.
Il y a toutes mes VHS enregistrées un petit peu comme un maniaque au fil des années depuis que je me suis intéressé à l'univers des séries, c'est-à-dire en gros depuis les années 90, depuis que j'ai l'âge de magnétoscoper tout seul comme un grand. Alors j'ai des tas de choses. Alors on voit Ally McBeal, on voit une série qui vous tient à cœur, l'ami.
Les Sopranos, ouais, d'accord.
Voilà. Et puis toute une sorte de séries. J'ai un côté un petit peu maniaque, c'est que chaque fois que passait sur une chaîne de télévision, du câble ou d'ailleurs, un pilote, je l'enregistrais. Et j'ai, par exemple, le pilote d'urgence.
Vous n'avez pas gardé que les meilleurs, hein. Ultime Recours.
Là, c'est le côté collectionneur un petit peu idiot.
Puce de Montreuil.
Où j'enregistre un peu tout. Si vous regardez bien, j'ai même un épisode de Zora Larousse, c'est pour dire. Benoît Lagan,
Eric Vera,
série télé,
l'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, premier épisode,
les origines de la série télé.
Eric, pour vous, c'est quoi la série ?
Pour commencer, on pourrait dire que c'est un ensemble d'aventures vécues par un ensemble de personnages réguliers, semi-réguliers, et on pourrait dire qu'ils ont un but. Hein. Chaque semaine, ils vont résoudre des conflits. Alors, ce but, il peut s'étaler sur un épisode, par exemple, hein, c'est résoudre une enquête, une série policière. Ça peut être sur une saison, gagner une élection, par exemple, comme dans The West Wing, qu'on verra plus tard, ou même carrément toute une série, hein, donc par exemple, retrouver l'assassin de sa femme, comme ça a pu être le cas pour Le Fugitif, grande série qu'on va aussi aborder. Je dirais que la série, elle doit résoudre un étrange paradoxe, c'est en même temps d'être la même à chaque épisode. Les gens viennent chercher une formule, il y a un rendez-vous qui s'opère, et puis en même temps, elle doit apporter à chaque fois quelque chose de nouveau, de frais, d'inédit. Donc c'est là que c'est compliqué à écrire, et c'est pour ça que c'est un médium vraiment passionnant.
Donc on va essayer de vous raconter un petit peu cette histoire des séries télé sous une forme de série télé.
24 épisodes, ça ressemble à s'y méprendre à une saison de série télé, mais il y aura aussi des cliffhangers, on se posera des questions et on y répondra un épisode après ou plusieurs épisodes après. Il y aura des guests, hein, des invités, des journalistes, des universitaires qui viendront parler de séries télé. Il y aura des pré-génériques, il y aura des retournements de situation. Et puis donc on sera effectivement dans ce médium qui mine de rien, épouse énormément tout ce qui peut se passer aux États-Unis et donc qui montre d'une certaine manière l'Amérique.
Alors, on pourrait nous reprocher de pas traiter ou de peu traiter les autres séries, celles des autres pays, les séries britanniques, les séries françaises. On les évoquera comme ça peut-être à l'occasion, mais c'est vrai. On voulait vraiment raconter à travers l'histoire des séries télévisées américaines une histoire de l'Amérique parce qu'elles racontent à leur manière l'histoire de leur pays. Alors,
pour ce premier épisode, nous voyagerons dans le temps des premiers feuilletons littéraires, radiophoniques, jusqu'à l'émergence de la télévision. Et au fil des 23 prochains épisodes, nous nous arrêterons sur des genres plus précis, tels que la série policière, le western, le fantastique, la comédie, et puis sur des séries peut-être aussi en particulier comme I Love Lucy, qui est une des premières grandes sitcoms, ou Hill Street Blues, qui est un polar qui change un petit peu la donne dans les années 80, ou encore bien évidemment ma petite chouchou Six Feet Under.
Vous n'oublieriez pas Les Sopranos, là ?
Non, je ne les ai pas oubliés, je vous laisse en parler.
Bon, à travers Les Sopranos, on parlera aussi des grands créateurs. Hein. Ils sont, on va dire, c'est pas donné non plus à tout le monde de créer une grande série, quelque chose qui parle vraiment du monde d'aujourd'hui. Bon, bien sûr, Les Sopranos, David Shea, c'est assez logique, mais on parlera aussi de Tom Fontana, de Norman Lear, qui a révolutionné la sitcom dans les années 70, qui a apporté un vrai discours social. On parlera de Steven Bochco, bien sûr. On va parler d'Aaron Sorkin, de J.J. Abrams, et puis de David E. Kelley, qui a effectivement lui aussi, on va dire à sa manière, révolutionné les séries judiciaires.
Alors pour entrer dans le vif du sujet, nous avons rencontré Séverine Barthes, elle est professeure de français, elle est l'une des animatrices d'un site internet très complet sur les séries télé, asuivre.org, et elle travaille actuellement sur une thèse consacrée à la rhétorique des séries américaines. Alors vous parliez, Eric, à l'instant de David Kelley, qui est créateur d'Ally McBeal, ou encore de Fontana, à qui l'on doit la fameuse série carcérale Oz. On peut dire finalement qu'ils sont les héritiers des feuilletonistes du 19e siècle, Dickens, Balzac, Genesu ou encore Alexandre Dumas.
Oui, effectivement, Alexandre Dumas avait son atelier d'écriture et avait une méthode de travail, c'est-à-dire que c'était vraiment lui, il faisait le plan, il déterminait ce qui allait arriver au personnage, tel chapitre, chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, il se passe ça, etc. Et après, il dispatchait ses morceaux à écrire. Et donc, effectivement, on a Gustave Maquet qui écrivait pour lui, c'est le plus connu de ses petites mains, mais il y en avait plein d'autres. Et on retrouve même les manuscrits avec les différentes écritures, on a vraiment des preuves de ce mode de fonctionnement. Et on a ce phénomène d'écriture multiple avec quelque chose qui pouvait ressembler à une bible de série télé au début, c'est-à-dire une définition des caractères des personnages, de leurs caractéristiques vraiment fondamentales, de ce qui va leur arriver, de comment ils réagissent, leurs qualités, leurs défauts. Comme ça, chaque petite main, chaque écrivain, avait en main tous les éléments pour faire du Alexandre Dumas. Et si vous dites que Dumas, c'est Kelley, on pourrait dire aussi, comme on parlait tout à l'heure de Fontana, lui serait plutôt Balzac, avec cette espèce de vision de toute la société qui est le but, l'objectif de la comédie humaine. Quand Balzac commence la comédie humaine, il a pour but de parcourir toute la société de son époque, de l'échelle la plus basse à l'échelle la plus haute, en croisant les regards. Et on a cette chose, ce même objectif chez Fontana, peut-être un peu moins exhaustif, mais on retrouve cette idée qu'on a dans les séries américaines de crossover ou de spin-off, c'est-à-dire qu'on a dans les séries ce jeu d'un personnage qui va aller faire une apparition dans une autre série ou d'histoires racontées à cheval sur deux séries. On a la même chose dans la comédie humaine avec Rastignac, qui est un des personnages principaux du Père Goriot, qui va refaire une apparition dans La Muse du département, ou Vautrin, qu'on a dans Le Père Goriot, qui va refaire une apparition dans Illusion perdue. On va avoir tout ce jeu. Parfois, les personnages chez Balzac, les personnages qui sont des personnages principaux dans un roman, vont devenir des personnages secondaires juste pour l'effet de réel, pour faire vrai, pour habiller les scènes du roman. Dans d'autres romans, ils feront une apparition 10 minutes, enfin 10 minutes, là j'ai vraiment une façon de parler de série, puisque donc il faut faire une apparition pendant 2 pages et demi dans un autre roman, pour justement resserrer les liens dans la comédie humaine, et on a les mêmes dispositifs, c'est-à-dire que le but c'est certes, à mon avis, du point de vue de Balzac, le but de faire en faisant ça, c'est de marquer la cohésion de la comédie humaine, surtout que quand il a commencé à écrire ses premiers romans, il n'avait pas cette idée-là. Donc il a commencé à écrire des romans. Et donc, il a réécrit dans certains de ses premiers romans, quand il les a republiés, la dernière édition chez Furne, toute la comédie humaine. Il a réécrit certains bouts pour faire apparaître des personnages qu'il avait inventés 20 ans après, qui réapparaissent dans des romans qui sont 20 ans antérieurs, juste pour resserrer cet effet-là.
Et ça ressemble à s'y méprendre à ce que font les auteurs aujourd'hui sur des séries hyper feuilletonnantes comme peuvent l'être Lost ou Heroes, où effectivement on va très loin dans un mystère, et pour développer ce mystère, finalement on est obligé de raconter quelque chose qui s'est passé avant, qui était peut-être pas prévu, mais du coup on réinvente quelque chose, on réécrit quelque chose. Et effectivement, d'ailleurs, par exemple, Tim Kring est venu à Paris l'année dernière, la première chose qu'il a dit quand il a commencé, quand il a parlé de ses influences, il a parlé de Dickens. Et puis il a parlé effectivement de la tradition française, il a parlé de Gensu, des mystères de Paris, il a parlé de toutes ces choses-là. Donc effectivement, on voit bien Lindelof sur Lost, c'est pareil, bon, lui, il est plus de référence aux comics, mais il a aussi une grande référence par rapport à la littérature, bon, la plus anglaise, effectivement, comme Dickens aussi. Et donc il y a effectivement une parenté, des liens très très forts qui se tissent, et c'est pas du tout extrapolé, c'est vraiment, là pour le coup, c'est avéré, quoi, ouais, complètement.
Séverine Barthes, Eric, à l'instant, vous faisiez référence aux séries très contemporaines comme Lost ou Heroes, qui s'inspirent et puisent clairement dans l'univers du comics. Ce qu'il faut savoir, c'est que la télévision, à ses débuts, compose ses grilles de programmes de séries en s'inspirant de modèles existants, et elle vampirise sans complexe le comics, on le disait, mais aussi le comic strip, ces courtes bandes dessinées publiées dans la presse écrite. Mais si on doit faire allusion à un média qui influence et modèle vraiment la télévision, c'est bien celui de la radio. Et le feuilleton radiophonique influence nettement les feuilletons télévisés. Pour l'anecdote, aux États-Unis, Superman, avant d'être adapté à la télévision et au cinéma, passe dans les années 20 de la BD à la radio. Et ce qui est amusant, c'est que le comédien qui interprétait le célèbre super-héros devait changer, dit-on, sa voix selon qu'il interprétait Superman, alors j'imagine avec une voix un peu plus virile, ou Clark Kent avec une voix peut-être plus hésitante. Je pense qu'il faut évoquer quelques minutes un des genres les plus parlants des fictions radio de l'époque, c'est celui du soap-opéra, qui sera ensuite adapté énormément et énormément jusqu'à aujourd'hui à la télévision. Le soap, c'est un feuilleton quotidien qui est destiné à un public de ménagères et qui est sponsorisé par des marques de lessive ou de savon, le soap en anglais. Et le premier soap opéra radio, né au début des années 30 et s'intitule Betty and Bob. Il raconte l'histoire d'amour d'une secrétaire et de son patron. C'est une trame qui inspirera pas mal et maintes fois les auteurs de séries, comme Aaron Spelling dans les années 80, qui dans Dynasty reprend cette idée. Donc si ce premier soap radio est Betty and Bob, l'exemple qui est pour moi, je trouve, le plus marquant, c'est celui de The Guiding Light, qui voit le jour en 1937 à la radio et qui sera reprise à la télévision, série qui a encore l'antenne aujourd'hui. Cette longue saga est créée par Irna Phillips, qui est romancière, et qui n'hésite pas à l'époque à aborder des sujets très controversés, comme le racisme ou encore l'adultère. Elle met aussi le pied à l'étrier à d'autres auteurs historiques, et je pense notamment à William G. Bell, qui est le créateur des fameux Feux de l'amour.
Deux choses sur le soap-opéra. Déjà, quand vous parlez effectivement des marchands de lessive, faut pas oublier qu'à la base, la télévision n'est pas destinée à diffuser des œuvres. Elle est vraiment destinée à diffuser de la publicité. Et donc, effectivement, on a des premières fictions où le but de la scène, c'est quand même la ménagère qui sait pas où elle a mis son paquet de lessive machin pour pouvoir le citer à l'antenne. Deuxième chose, effectivement, le soap-opéra télé, mais même le soap-opéra radio, il est important parce qu'il met en place des techniques de production. Donc la future industrialisation de la télé, c'est-à-dire que quand vous avez un nombre X d'épisodes, c'est-à-dire beaucoup d'épisodes à faire, bien sûr, Irna Phillips, elle n'écrit pas toute seule avec ses petites mains la série. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement avoir un pool d'auteurs, ça veut dire une hiérarchie. Il y a des auteurs qui n'écrivent rien, qui font que relire et qui corrigent. Ça veut dire qu'il y a des producteurs exécutifs, des gens au-dessus qui vont gérer toutes les questions de production et qui auront aussi bien sûr l'œil sur l'écriture. Mais donc effectivement ce soap, il est important pour ça. Et donc vous parliez de Guiding Light, et Guiding Light c'est effectivement emblématique parce que c'est en même temps donc effectivement forcément une série radio qui commence dans les années 30, qui existe encore maintenant, doit être à pas loin de 20 000 épisodes. Je ne sais pas si vous voyez quand même un petit peu
oui,
le...
parce qu'elle est toujours produite, en plus par la fameuse marque de lessive.
Voilà, effectivement. Et donc, vous avez des acteurs qui ont commencé dans Guiding Light, qui sont morts dans Guiding Light, pour de vrai. Et donc, effectivement, on a des générations maintenant d'acteurs qui succèdent. Alors bon, peut-être que nous, dans 50 ans, Plus belle la vie sera encore là. Et effectivement, ça sera rigolo d'en parler comme ça.
The New Does brings you The Guiding Light, created by Erna Phillips.
You know, Bill, it's nice to be able to sit down at the breakfast table, just the two of us, and have that second cup of coffee together.
Alors en 37, à l'époque où apparaît cette série à la radio, la télévision peut penser qu'à ce moment-là, elle est vraiment qu'à ses débuts, qu'à ses tests. Or, ça fait quand même plusieurs années que les techniciens travaillent, réfléchissent, essaient de créer ce nouveau média. En fait, c'est bien 10 ans avant, hein. Contrairement, on peut penser que c'est dans les années 30, en fait, c'est bien avant, c'est dans les années 20 que les premiers tests ont lieu, en 1926 en Écosse, par exemple, et aux États-Unis, c'est en mai 1928 que General Electric réalise des premiers essais réguliers.
Vous en savez des choses, Benoît ?
Ah oui, mais attendez, c'est pas fini. Par exemple, savez-vous quelle est la première image qui a été filmée à l'époque ?
Oui, c'est $1.
Mais comment vous savez ?
Bah, vous m'avez dit ça hier. Donc,
voilà. Oui, voilà. $1. Et la licence est décernée justement pour cette transmission d'image à un certain Philo T. Farnsworth qui donc, a réussi à transmettre cette image grâce à, je vais le dire comme on le disait à l'époque, un tube à disséquer les images. Voilà. Mmh. C'était à Philadelphie. Donc tout ça, on est dans les années 20, à la fin des années 20. Et puis, les premières expériences de véritables premières émissions retransmises avec des gens qui ont des postes de télévision chez eux ou dans des bars, c'est en 1938. Et c'est la radio de l'époque NBC qui se met à la télévision et qui diffuse, par exemple, des extraits d'une pièce jouée à Broadway. C'est une des premières tentatives.
Donc 38, mais effectivement, bon, la télé, comme on l'entend avec des grilles de programmes, c'est presque 10 ans plus tard. Quand il y a cette émission d'images avec $1, on est d'accord, c'est encore les balbutiements, c'est de poste à poste, c'est sur des distances finalement très réduites.
Il n'y a pas de suspense.
Pour l'instant, il n'y a pas de suspense, ça c'est clair. Mais globalement, effectivement, on n'est pas encore effectivement dans l'invention qui va permettre d'inonder un pays ou en tout cas une partie de pays.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore véritablement de chaîne de télé, mais ce qui est assez curieux, c'est que quand même à cette époque, NBC invente l'audimat, plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle sait qui a acheté les postes de télévision. Pour l'instant, ils ne sont pas très très nombreux, donc elle a son listing et elle envoie à chaque acheteur un petit coupon réponse sur lequel elle demande « Ah, au fait, lorsque nous avons diffusé l'extrait de la pièce à Broadway, est-ce que ça vous a plu ou pas ?» Et c'est le premier audimat, en fait.
C'est les balbutiements, effectivement, du retour client. Ça montre bien, effectivement, le caractère tout de suite très commercial de la télé américaine. Ce caractère commercial, elle le garde jusqu'à maintenant. Ça va pousser, la conséquence, c'est que ça pousse, effectivement, à une certaine concurrence et une certaine créativité. Et beaucoup de gens, effectivement... avance la thèse que si la télé américaine elle est comme elle est, c'est aussi parce qu'effectivement il y a une ultra concurrence.
This is the Dumont Television Network.
On est essentiellement dans une industrie donc qui est très centralisée, c'est New York. Où effectivement on aimait live parce que les moyens effectivement d'enregistrement comme le magnétoscope n'existent pas ou quand ils existent c'est vraiment de très très mauvaise qualité, donc on a effectivement du live. Le plus simple dans le live, c'est effectivement la retransmission d'événements artistiques. Donc ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être du musical. Et puis ça peut être effectivement des petits sketchs. Hein, donc effectivement, on va avoir toute une tradition d'auteurs qui vont se mettre à écrire des sketchs. Il y a quand même un Show Your Show, je crois, qui possède dans son équipe un certain Woody Allen, un certain Mel Brooks, un certain Neil Simon. Donc effectivement, là, on est avec la crème des auteurs qui deviendront après des grands auteurs de cinéma ou de théâtre. Et on est effectivement dans cette période moins dans la fiction sérielle, comme on va pouvoir en parler après, mais plus dans des coups, c'est-à-dire une retransmission live.
Donc, des émissions qui diffusent des sketchs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous parliez du direct, du théâtre filmé, où on tourne de véritables pièces de théâtre devant les caméras, avec là aussi, vous parliez vous d'auteur, Woody Allen, etc. Mais c'est aussi avec ces pièces de théâtre filmé que l'on découvre de futures grandes stars. Hein, John Wayne, Marlon Brando, Robert Redford, James Dean, tous ces gens-là commencent dans ces pièces de théâtre filmées.
Il faut quand même imaginer qu'ils y prenaient des classiques de Shakespeare, par exemple, et qui les compressaient en une heure. Donc, j'ose imaginer ce que ça peut donner. Mais cela dit, à côté de ça, on va aussi avoir toute une branche d'auteurs. On en parlera pour les anthologies de l'émission prochaine, mais on va avoir aussi toute une famille d'auteurs qui travaillaient essentiellement sur Broadway, qui vont venir effectivement écrire, alors pas encore des séries, parce que la télé s'est pas encore approprié le langage filmique des séries, mais venir écrire des dramatiques, hein, des unitaires. Je pense par exemple à Reginald Rose qui va écrire 12 hommes en colère, qui deviendra après un film. Je pense à Patty Chayefsky qui a écrit Marty, qui deviendra un film qui a été oscarisé. Je pense à Rod Serling qui a écrit après Twilight Zone, on en parlera demain.
You see him? Did you? All right. That's my first present to you. All right? Now you listen to me. Now listen. Now you know who's running things, see? Me. Not Oakley, not your stooges, me.
À propos d'anthologie, juste donc la première émission qui ressemble un petit peu à une série, hein, c'est le Kraft Television Theater. La télévision entre dans les salons. Le Kraft Television Theater, c'est financé, c'est sponsorisé par la Kraft Food Company. C'est un sponsor unique. La télé, pendant plusieurs années, va fonctionner comme ça, avec un sponsor unique. La publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas encore le droit de citer à la télévision.
À la base, en fait, les chaînes de télé, donc les grands networks, n'ont pas forcément l'idée de produire eux-mêmes leur fiction. Enfin, même si maintenant, d'ailleurs, elles passent aussi par des studios. Mais ce qui se passait, c'est qu'effectivement, le sponsor qui voulait effectivement mettre son nom à l'antenne, passait par une agence qui créait effectivement une fiction qui collait exactement à ce que voulait l'annonceur. Alors, effectivement, ça enlevait le souci pour la chaîne d'avoir à produire quelque chose, d'avoir à gérer les salaires de tout le monde, de l'équipe technique. Mais en même temps, du coup, ça les aliénait aussi, puisque vous imaginez bien qu'un sponsor, par exemple, qui pouvait être une marque d'agroalimentaire, allait effectivement évacuer de son programme à toutes les questions liées, par exemple, à l'obésité ou des choses comme ça, parce que ça marchait pas. Alors, NBC, dans les années 40, effectivement, a changé ce système. C'est quelqu'un qui s'appelle Pat Weaver qui a inventé le concept de, enfin, on va le dire en français, de publicité magazine. Je veux dire, comme dans un magazine de presse écrite, c'est-à-dire qu'on feuillette le magazine et on voit plusieurs pages de publicité. Et, alors, grosse conséquence, c'est qu'effectivement, du coup, ces pages de publicité, il faut les ventiler pendant l'heure ou la demi-heure de programme. Et donc, qu'est-ce que ça donne, Benoît ?
Ben, ça donne des séries comme on les aime, c'est-à-dire avec des séquences, des actes bien définis, de aujourd'hui 7 à 8 minutes, mais qui pouvaient être plus longs à l'époque, c'est-à-dire peut-être 10, 12 minutes, avec le fameux cliffhanger à la fin des 12 minutes, où on se demande si Patty a tué John, et la pub, donc on attend la suite, 3 minutes, 4 minutes plus tard, on a en fait la suite de l'histoire, et c'est vrai que ça, enfin, moi je trouve que finalement c'est d'un mal sort un bien, c'est-à-dire que ça oblige les scénaristes à nous raconter des histoires avec des rebondissements permanents, et qui fait que le côté addictif dont on parle sans arrêt vient peut-être un petit peu aussi de là.
Alors Benoît, ça se voit que vous regardez les séries en DVD et que vous les avez pas regardées là-bas aux États-Unis avec les coupures de pub toutes les 8 minutes, parce que c'est vraiment effectivement insoutenable, mais il n'empêche qu'effectivement ça a donné effectivement ce fameux rythme, hein, la structure en quatre actes des séries américaines. Je pense qu'on y reviendra. Faut aussi imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas la télécommande, donc on zappe pas. Et effectivement, donc les auteurs effectivement nous font des promesses et nous disent restez là, parce que juste après, on va vous raconter la suite.
What do you suppose they are? I wake up in a hotel room in Honolulu and it's 1941. But I mean, I really wake up and it's really 1941.
Now, wait a minute, Mr. Jensen. You're not trying to tell
me. Yes, I am telling you. I'm going back in time.
See your authorized RCA Victor dealer tomorrow. See for yourself why every year more people buy RCA Victor than any other TV.
Yeah.
Donc là, voilà, là, il y a vraiment naissance d'un rendez-vous et puis des premières prémices de l'addiction pour que le téléspectateur reste devant son écran. Et bien sûr, il consomme de la pub. La pub finance les programmes et les programmes, du coup, sont produits.
À ce moment-là, on peut dire que progressivement, donc, la télévision entre dans les foyers américains avec des programmes réguliers, fédérateurs. La série devient un genre à part entière, et qui va permettre à chaque téléspectateur de se construire un petit peu son histoire personnelle. Moi, ça me fait penser à une série qui a été diffusée entre 2002 et 2005 sur NBC. Cette série s'appelle American Dreams et raconte très bien l'histoire de la famille Pryor de Philadelphie. Le père Pryor tient un magasin de télévision et on voit en permanence dans cette série la présence de la télévision avec en lien l'histoire de l'Amérique des années 60. On est à l'époque où John Fitzgerald Kennedy est assassiné.
Et d'ailleurs là, on entend dans l'extrait Lyndon Johnson qui parle de la mort du président Kennedy.
Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui le partagent. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Voilà.
Nous venons tous de vivre une semaine tragique qu'aucun de nous ne pourra jamais oublier. Nous n'avons pas le pouvoir divin d'expliquer ce qui est inexplicable. Un grand homme d'État est mort. Une grande nation doit se relever. Je suis déterminé à ce que nous gagnions le droit de vivre des jours meilleurs.
C'est un grand pays. Donc la télévision, c'est un ciment, parce qu'on ne peut pas se réunir pour partager des événements autrement que par la télévision.
Barbara Vilaise, universitaire franco-américaine.
Je crois que je suis dans la première génération de culture visuelle. La télévision occupait une grande place dans nos soirées, dans nos journées, dans nos vacances. On en parlait à l'école, les grands en parlaient au bureau. Et donc, lorsqu'il y avait des événements importants, c'était couvert par les médias. Donc, il y avait les funérailles de Kennedy. Il y avait ce qui était extrêmement choquant pour moi, parce que je regardais les événements à la suite de cet assassinat. Et j'ai vu devant mes yeux, en live, Lee Harvey Oswald tué par Jack Ruby. Et je ne comprenais pas ce que je voyais. Et alors, ça a fait partager en immédiat quelque chose qui se passe dans le pays avec les gens qui n'étaient pas là, mais finalement, on était là. Et alors, d'autres événements, il y avait Martin Luther King, il n'y avait pas l'assassinat en soi, mais toute la suite. Il y avait, chose terrible pour moi, l'assassinat du frère Kennedy. Parce que moi, j'étais à un âge où on mettait beaucoup d'espoir dans ce deuxième frère. Et je venais de décider pour quel candidat j'allais travailler. Et il est mort le lendemain. Il y avait des choses, des funérailles, même des personnes de la télévision. Parce que ça devenait des héros pour nous aussi. These arms of mine.
Qu'apporte la série télé à la façon de raconter, à mon avis, c'est qu'effectivement, on est dans le temps.
Séverine Barthe.
Un film de cinéma, c'est 1h30 ou 2h, on est dans la salle et on sort, c'est fini. Un roman, c'est le temps qu'on va mettre à le lire. Et après, c'est pareil, c'est une, on ferme la couverture et c'est fini. L'avantage de la série télé, et c'était l'avantage qu'avait le roman feuilleton à son époque, c'est l'inscription dans le temps. On commence, on découvre les personnages, et de semaine en semaine, d'année en année, on grandit avec eux, on évolue avec eux, ils évoluent par rapport aux changements qui ont lieu dans la société. Et effectivement, la série américaine, souvent, rebondit sur cette actualité, et c'est vraiment un miroir, une réflexivité entre le monde que je vois dans ma télévision et le monde réel dans lequel je vis.
C'était série télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Prise de son Alexandre Dang.
Mixage Pierre Mine.
Réalisation Lionel Quentin.
Une émission de Benoît Lagane et Éric Vera.
Poursuivez l'aventure sur notre site internet franceculture.com et dans les pages de la revue Générique, le magazine de la culture série.
Demain, Twilight Zone, l'Amérique de Rod Serling.
Bonne nuit.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.